RFI, 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Et c'est parti pour le dernier journal africain de votre matinale avec à la une le lourd bilan des combats des derniers jours à Goma dans l'est de la RDC. Au moins 700 morts selon les Nations Unies qui déplorent également de nombreuses violations des droits humains. L'OMS a, elle, recensé plus de 2800 blessés et déplore la saturation des hôpitaux. Également au sommaire, l'armée du Burkina Faso accusée d'exactions en début de semaine entre Seitenga et Séba dans la région du Sahel. L'éboulement d'une mine artisanale qui fait plusieurs victimes au Mali dans la région de Koulikoro. 10 millions de francs CFA au Sénégal, indemnisation prévue pour les familles de 79 personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Une étape, assurent les autorités sénégalaises. Et puis, l'engagement d'une star ivoirienne du taekwondo pour ses pairs, Ruth Gbagbi. Elle annonce une structure pour accompagner les athlètes qui se font harceler ou qui sont victimes de violences. Des exécutions sommaires, des viols, des atteintes aux droits humains. Voilà donc le sombre tableau dressé par les Nations Unies autour de la situation ces derniers jours à Goma, dans l'est de la RDC, le chef-lieu du Nord Kivu, où les éléments du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris position. Sur place, entre dimanche et jeudi, toujours selon l'ONU, les combats avec l'armée congolaise et les milices Wazalendo ont fait au moins 700 morts. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur l'afflux des blessés dans les établissements de santé. Écoutez l'alerte d'un porte-parole de l'OMS, Tariq Jasarevitch.
Les hôpitaux sont saturés et font face à un afflux de blessés. Entre dimanche 26 et ce jeudi 30 janvier, on a dénombré au moins 2880 blessés, la plupart par des tirs ou par des éclats d'obus. Nos collègues ont vu des corps sans vie dans les rues, dont certains semblent être des civils. Ce bilan va très certainement s'alourdir à mesure que la violence s'estompe. Nous allons pouvoir accéder à plus d'endroits et sans doute avoir un meilleur accès aux communications dans les prochains jours. Les personnels de santé, les infirmiers, les chirurgiens, les anesthésistes travaillent jour et nuit depuis 6 jours maintenant pour tenter de faire face à cette crise. Il manque de matériel de première nécessité et il y a de gros besoins. L'OMS explore toutes les alternatives pour tenter d'acheminer plus de matériel dès que possible. Nous nous préparons aussi à des besoins croissants dans le sud Kivu.
Tariq Jasarevitch de l'OMS et de son côté la SADC réitère son soutien indéfectible à Kinshasa. La communauté de développement d'Afrique australe a organisé hier un sommet extraordinaire à Harare. Son pays étant membre, le président Tshisekedi a participé en visioconférence, mais la position de la SADC est toutefois en deçà des attentes congolaises. Car si le communiqué final note avec inquiétude des attaques du M23 et des forces armées du Rwanda, il n'y a pas de condamnation formelle en revanche envers Kigali. L'est de la RDC où le M23 n'est pas le seul groupe actif. Les ADF continuent eux aussi de faire régner la terreur. Dans la province de l'Ituri, ils seraient à l'origine de la mort d'au moins 28 civils à la suite d'une triple incursion jeudi. Des attaques qui auraient visé notamment des villages de la chefferie de Walese Vonkutu. Les armes qui s'expriment toujours par ailleurs au Soudan. Le général Emeti promettait hier de chasser l'armée régulière de Khartoum. Il assure que les hommes du général Al-Burhan ne garderont pas longtemps le contrôle du QG de l'armée qu'ils ont repris en fin de semaine dernière dans la capitale, à l'heure où le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme alerte sur de possibles exécutions sommaires de civils par l'armée régulière, justement, à Khartoum Nord. Et de son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne les frappes des FSR qui s'intensifient en ce moment sur la ville d'El-Fasher, la dernière capitale des 5 États du Darfour, toujours aux mains de l'armée. L'armée du Burkina Faso, à présent, accusée d'exactions dans la région du Sahel. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées entre Seitenga et Séba en début de semaine et de nombreuses sources locales accusent un convoi de ravitaillement et de relève de l'armée burkinabé, à l'heure où un grand nombre de personnes restent portées disparues. Récit Abdoulaye Diko.
L'armée burkinabé est arrivée à Koulango, près de Titabé, mardi après-midi. Selon de nombreuses sources jointes par RFI, les soldats interpellent les habitants. Maison après maison, carte d'identité ou pas, raconte un témoin, ils exécutent la personne en face. Au moins 23 personnes ont été tuées dans ce village. Toujours, d'après des témoins, quelques heures plus tard, l'armée a commis les mêmes exactions dans les villages de Tchoutibé, non loin de Titabé. Des hommes, des femmes et même des bébés figurent parmi les victimes. Deux frères de mon père ont été tués, témoigne un villageois, qui décrit même ses difficultés à inhumer les corps, abîmés par les balles et en état de décomposition avancée. Seuls ceux qui étaient absents ou qui ont pu fuir ont eu la vie sauve, raconte un villageois. Moi, j'étais de l'autre côté de la frontière, au Niger, pour la vente de mon bétail. À mon retour le soir, ils avaient tué tout le monde dans mon village. Le convoi de l'armée burkinabé mis en cause était parti de Dori lundi dernier. Il est arrivé jeudi à Séba.
Abdoulaye Diko, un éboulement mercredi au Mali, dans une mine artisanale du village de Danga, dans la région de Koulikoro. Pas de bilan précis encore à l'heure actuelle, mais les sources locales craignent des chiffres élevés. Plusieurs dizaines de morts peut-être parmi les orpailleurs, David Baché.
La mine artisanale du hameau de Kokoyo dans le village de Danga n'échappe pas à la règle. Pour trouver de l'or, il faut creuser et il faut descendre en profondeur. Lorsque des éboulements surviennent, les tragédies sont difficilement évitables. Le gouvernorat de Koulikoro indique qu'un groupe d'orpailleurs, en majorité composé de femmes, s'est ainsi retrouvé submergé par une eau boueuse qui a fait des ravages. Des équipes de santé, de la protection civile et des forces de sécurité ont été mobilisées pour porter secours aux blessés et procéder à l'extraction des corps. Un travail extrêmement difficile en raison justement des eaux boueuses. Les images montrent plusieurs pelleteuses à l'œuvre, au milieu des roches sablonneuses et des vastes étendues d'eau colorées par la latérite. Sous le regard incrédule des orpailleurs, hommes, femmes, enfants, assistant aux opérations de recherche. Une pelle mécanique a même été engloutie, toujours selon le gouvernorat, qui précise avoir mis en place un dispositif de sécurité pour éviter que ne survienne d'autres catastrophes.
Les explications de David Baché. Au Sénégal, les familles de 79 personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024 vont bénéficier d'une indemnisation. 10 millions de francs CFA chacune, un premier pas selon les autorités sénégalaises avant la mise en place d'une commission de réparation qui sera chargée d'indemniser les victimes de ces manifestations. À Dakar, Léa Lisa Westerhoff.
Il ne s'agit pas de réparation ou d'indemnisation, a insisté la ministre de la famille Maïmouna Diaye hier. Ces 10 millions de francs CFA accordés aux familles de chacune des 79 personnes tuées dans les manifestations de l'opposition ces trois dernières années sont plutôt conçus comme une première mesure d'assistance. Idem avec la décision d'accorder une prise en charge médicale et 500 000 francs CFA à chacun des 2172 ex-prisonniers sous Macky Sall, des personnes emprisonnées à la suite des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024 et dont le nombre pourrait augmenter au gré du recensement effectué par les organisations de la société civile. La question des réparations reste donc entière pour l'heure. Elle sera examinée dès que la commission chargée de s'en occuper sera mise en place, assure une source au sein du gouvernement. Pour cela, il faudra d'abord réviser ou abroger la loi d'amnistie, comme l'a promis Ousmane Sonko. Ce texte, adopté dans les tout derniers jours du régime de Macky Sall, exempte de poursuite toutes les personnes arrêtées ou condamnées dans le cadre de ces manifestations. 60 familles qui ont porté plainte pour homicide attendent depuis des mois de pouvoir soumettre leur dossier à la justice. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Une étoile ivoirienne du taekwondo qui s'engage. Ruth Gbagbi, double championne du monde et double médaillée olympique. Elle va lancer en Côte d'Ivoire sa structure de safeguarding. C'est un terme anglo-saxon pour désigner une idée qui consiste à mieux protéger et accompagner les athlètes ivoiriens lorsqu'ils se sentent harcelés ou victimes de violences. Yoann Gourlet.
Ruth Gbagbi se prépare à mener un nouveau combat, celui de la protection des athlètes. Marqué par les plaintes et témoignages récents de jeunes sportives ivoiriennes contre des entraîneurs de l'équipe nationale de taekwondo qu'elles accusent d'attouchement et de harcèlement sexuel, la double championne du monde veut mettre en place une structure de safeguarding comme cela existe en France et au Canada.
C'est un, de recueillir les témoignages, deux, assister les victimes, trois, enquêter et sanctionner, en quatre, prévenir les abus et les harcèlements à travers des ateliers de formation. Tout cela dans le but d'assurer un environnement sain, sécuritaire et inclusif pour tous les athlètes ivoiriens.
Elle souhaite que cette structure soit à la fois physique et virtuelle pour que les athlètes de tout le pays puissent dénoncer les abus. Elle espère être soutenue dans cette démarche par l'État ivoirien et les organisations internationales, un projet qui se veut féminin.
Je pense que je pourrais piloter ce projet avec de bonnes avocates en Côte d'Ivoire qui pourront également m'accompagner dans tous ces domaines-là, des femmes également dans le domaine de la communication. J'aimerais que ce soit surtout féminin parce qu'aujourd'hui la femme est plus affective et je pense que les victimes vont se sentir même en sécurité lorsqu'ils viendront témoigner.
Ruth Gbagbi aimerait que cette structure voit rapidement le jour et pourquoi pas même répliquer ce projet dans les autres pays africains. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 8h, bientôt 40 minutes. 9h40 ici à Paris. Vous retrouvez bien sûr la suite de vos programmes sur RFI. Excellente journée.